Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as, à travers les âges, donné à des hommes d'écrire ce que tu voulais nous transmettre. Merci parce que nous avons la Bible qui vient nous dire comment tu veux avoir une relation avec nous, ce que tu attends de nous, comment aller vers toi. C'est un trésor, Seigneur, et nous voulons rester reconnaissants chaque fois que nous l'ouvrons. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'avais envie de rester avec un récit de baptême, un texte qui parle de baptême. Il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament, et en particulier dans le livre des Actes. Et ce matin, j'aimerais lire au chapitre 8 du livre des Actes. Si vous avez une Bible et que vous voulez suivre, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26. Sinon, vous pouvez écouter la lecture que je fais dans la version Nouvelle Français Courant. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi et pars en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt. Sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre ?» si personne ne me guide. » Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants ? Car on a mis fin à sa vie sur terre. » Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole et, commençant par ce passage de l'Écriture, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Philippe se retrouva à Azote, puis il passa de ville en ville et annonçant partout la bonne nouvelle jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Voici un récit de baptême, un récit connu, baptême de, on appelle le baptême de l'Éthiopien. Et c'est un récit peut-être qui frappe par la rapidité. C'est quelqu'un qui semble ne pas connaître grand-chose de l'Évangile au départ et qui se fait baptiser comme ça immédiatement en plein désert. Et parfois, on prend ce texte pour justifier une théologie un peu où on dit qu'on n'a pas trop besoin d'église, pas besoin d'institution, tout ça, on peut vivre n'importe où, être baptisé n'importe où par n'importe qui. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que nous dit ce texte. mais je vous laisse juger au fur et à mesure. Peut-être un mot sur le contexte. Ce texte, c'est un peu un épisode isolé, puisque Philippe est envoyé vers cet Éthiopien, puis il repart aussi sec. Mais en fait, il arrive à un moment précis de l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, après que Jésus ait quitté la terre pour retourner au ciel près de son Père, l'Église a commencé, et elle a commencé avec un événement marquant, puisque à la Pentecôte, il y a eu l'Esprit qui est venu et une énorme conversion, plus de 2000 personnes qui se sont ajoutées à l'Église. Et depuis, l'Église à Jérusalem grandit, les gens sont bien ensemble. On peut lire le chapitre 2 du livre des Actes, qui est toujours extrêmement stimulant à lire. Elle grandit bien ensemble, elle prospère jusqu'à ce qu'arrive la persécution. Et les responsables de la ville, les responsables religieux se mettent à persécuter activement les chrétiens jusqu'à la mort, puisque Étienne est mis à mort, lapidé. Et à partir de ce moment-là, les chrétiens se dispersent, ils quittent la ville de Jérusalem et l'évangile se répand partout où ils passent. Et on est au début de cette période, et c'est pour ça qu'on voit Philippe se promener, parce qu'il fuit Jérusalem. Et là où il passe, il parle de Dieu. Dans ce récit, on a deux personnages, ou plutôt trois. Parce que je pense que à côté de Philippe et de l'Éthiopien, il y a aussi le Saint-Esprit qui est à l'action. On le voit qui dit à Philippe d'aller vers le char, et même si c'est un ange qui apparaît à Philippe pour lui dire d'aller au désert, je pense qu'il y a une révélation divine et que l'Esprit n'est pas loin. L'Esprit qui lui dit d'aller vers le char, et une fois fini, l'Esprit qui l'emmène ailleurs. L'Esprit qui est particulièrement actif et pas seulement à parler discrètement à l'esprit de Philippe, mais carrément intervenir pour l'amener au lieu où il faut qu'il agisse. À côté de lui, je le disais, deux personnages. Et le premier, c'est Philippe. Et Philippe, il est identifié, et on donne son nom. C'est quelqu'un qu'on voit un peu dans le livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas un des apôtres, ce n'est pas un des 12 choisis par Jésus. Il a un nom grec. La première fois qu'on en entend parler, c'est au chapitre 6, quand on cherche des personnes pour donner un coup de main pour la distribution de nourriture, parce que l'Église avait tellement grandi qu'on n'arrivait pas bien à distribuer à ceux qui en avaient besoin, plutôt celles, les veuves qui n'avaient pas de moyens pour subvenir à leurs besoins. Et on peut penser que c'est un converti récent qui était venu à Jérusalem pour la Pentecôte et qui a entendu la prédication de Pierre. En tout cas, ce n'est pas un de ceux qu'on appelle les apôtres, un de ceux qui ont reçu tout l'enseignement de Jésus et de ceux qui enseignent l'Église. S'il est là, dans le désert, c'est parce qu'il a fui Jérusalem, il a fui la persécution. On peut trouver ça pas très courageux. On peut aussi se souvenir de ce qui est écrit en Matthieu 10, qu'on a étudié dans les groupes de maison. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Jésus n'a pas demandé à ses disciples de se faire massacrer sur place. Il a demandé à ce que la bonne nouvelle soit envoyée. Et si on résiste à un endroit, c'est pas grave. Il y a plein d'autres endroits, il y a plein d'autres personnes qui ont envie d'entendre parler de la bonne nouvelle. Surtout, dans ce récit, il y a une question que pose Philippe et que je relève. Quand il va vers l'Éthiopien, je ne sais pas si vous avez noté cette question, il lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Comprends-tu ce que tu lis ? C'est sa phrase d'accroche. Il approche du char et il entend le fonctionnaire en recherche, il entend qu'il lit le texte biblique. Oui, il l'entend parce qu'à l'époque, on a l'habitude de lire à voix haute. C'est une autre époque où on n'a pas l'imprimerie et tout le monde ne peut pas se procurer des Bibles à 1,50 € ou gratuitement dans les églises. Il devait avoir un rouleau, quelque chose de rare, peut-être même un fragment du livre du prophète Ésaïe, et il le lisait à voix haute. Comprends-tu ce que tu lis ? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de comprendre le texte biblique. Le texte que lisait l'Éthiopien, on l'a lu au début du culte, avant le moment de louange. Je ne sais pas comment vous l'avez reçu, si vous avez trouvé que ce texte était limpide ou s'il avait besoin d'explication. En tout cas, Philippe pense qu'il peut apporter quelque chose aux préoccupations de cet homme qui est en train de lire. Alors il ose. Il pose cette question. Comprends-tu ce que tu lis ? Et là, l'autre homme, lui, on ne connaît pas son nom, c'est un anonyme, un fonctionnaire éthiopien, sans doute quelqu'un de haut placé pour pouvoir faire un tel voyage de façon confortable, quelqu'un qui doit avoir une certaine aisance pour pouvoir posséder un écrit de quelqu'un d'éduqué, pour pouvoir le lire. On nous dit qu'il rentre de Jérusalem où il est allé pour adorer. Parce que Dieu a choisi la ville de Jérusalem pour y faire son temple. Et c'est là que ceux qui croient en lui sont invités à se rendre pour l'adorer. Ça, c'est avant Jésus qui vient bouleverser les choses en disant que ce qui compte, ce n'est pas de l'adorer dans la ville de Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Mais donc, notre homme, ce n'est pas quelqu'un qui est étranger à Dieu. Je ne sais pas s'il est juif, le texte ne le dit pas, mais en attendant, en tout cas, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui a un intérêt pour lui, puisqu'il vient à Jérusalem pour l'adorer. On le voit sur son char, en train de lire, et il peine à comprendre. Il lit ce texte qui parle d'un homme qui a été maltraité et qui s'est laissé faire comme s'il supportait un châtiment qui lui était destiné. Et en lisant ce texte, il ne sait pas de qui il s'agit. Et ça, c'est une question qui préoccupe ceux qui méditent la parole à l'époque, qui méditent le prophète Ésaïe. Qui peut être ce serviteur dont parle Ésaïe. Certains pensent que Ésaïe parle de lui-même. Il est serviteur de Dieu, prophète, pas écouté, maltraité, mais pas à ce point-là quand même. Certains pensent que le prophète parle du peuple d'Israël, le peuple choisi, qui lui aussi est maltraité et qui, jusqu'à être emmené en exil. Mais bon, il y a des choses qui ne collent pas, parce que quand même dans le texte, c'est des choses très personnelles, qui parlent d'une personne et pas d'un groupe de personnes. Et donc, ce n'est pas clair. Qui est cet homme qui a tant d'importance, qui occupe tant de place dans les écrits du prophète ? Et Philippe lui explique. On n'a pas le dialogue, mais je pense que Philippe lui a expliqué que cet homme, c'est Jésus. La mort de Jésus sur la croix a révélé qu'il était le serviteur souffrant, celui qui se laissait faire alors qu'il était innocent, qu'il est allé jusqu'au bout, qu'il a été arrêté, battu, humilié et qu'il ne s'est pas défendu. Peut-être l'Éthiopien en a-t-il entendu parler. On voit dans le livre des Actes qu'on a continué de parler de Jésus dans la ville de Jérusalem après sa mort, ça a fait du bruit. En tout cas, pour ceux qui ont vu Jésus et qui l'ont vu souffrir, c'est une évidence. Le serviteur souffrant, c'est lui. Et le texte nous dit que Philippe explique la bonne nouvelle à partir de ce texte. Donc ensuite, il enchaîne Sans doute a-t-il regardé plus largement ce texte et parlé des maladies qu'a portées Jésus. Ce sont nos maladies qu'il a portées. Il a intercédé pour les coupables. Ses fautes, ce sont celles des hommes qu'il porte, de tous les hommes, les offenses contre d'autres, les offenses contre Dieu, tous les moquements, les ratés qu'on peut avoir, tous ces trucs où on n'est pas à la hauteur, tout ce que tout le monde commet, tout ce qui nous coupe de Dieu. C'est toutes ces choses que le serviteur a payées et pour lesquelles il s'est laissé faire. Lui qui était innocent, il a payé pour nous tous. Et ceux qui se mettent en route à sa suite sont pardonnés, réconciliés avec Dieu. J'imagine que c'est ce genre de choses qu'a expliqué Philippe au fonctionnaire éthiopien. Et là, l'Éthiopien a une question qui me surprend. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je trouve la formulation surprenante. Dans mon expérience de pasteur, quand on vient me voir, on me dit « j'aimerais être baptisé ». On parle de demander le baptême. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je trouve qu'avec cette question, il montre qu'il a compris qu'il est nécessaire d'être baptisé. C'est le sens unique. Est-ce que j'en suis là ou pas? Est-ce que je peux être baptisé? Est-ce que c'est ça la prochaine étape? Dis-moi, Philippe. Est-ce qu'il manque quelque chose? Certaines versions ont un verset qui est inséré, le verset 37. On ne le retrouve pas dans toutes les versions. Alors ça peut vous troubler. Je ne l'avais pas dans la version que j'ai là et que j'ai lue. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que le texte biblique, c'est un texte qui nous vient de loin, un texte sur lequel les archéologues ont travaillé. C'est un texte d'une rare précision. Il n'y a aucun écrit de cette époque pour lequel on ait autant de manuscrits, duquel on soit aussi sûr. Mais il y a encore des petites choses sur lesquelles les manuscrits ne concordent pas tous. Là, les biblistes, ceux qui étudient le texte biblique, concordent pour dire que ce verset 37 n'est très certainement pas dans ce qu'a écrit Luc. C'est pour ça que les Bibles les plus récentes n'ont pas le verset 37. Si vous l'avez, il ne fait absolument pas de mal, puisque Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Ça concorde avec le reste des écrits bibliques, ça concorde en particulier avec ce que peut dire Paul à la foule à Jérusalem quand il demande « Que devons-nous faire ?» et qui répond « Faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. » Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Le char s'arrête. Philippe baptise l'Éthiopien. Et ils continuent leur route, chacun de leur côté. L'Éthiopien, tout joyeux. Philippe, joyeux aussi, j'imagine. Ils continuent leur route. C'est marrant de voir ces deux personnages si différents qui se croisent et qui se séparent, si différents et pourtant avec ce point commun, celui d'être sur la route. Philippe, la route du partage de la bonne nouvelle, l'Égyptien sur la route du retour chez lui en Égypte. Tous les deux sur une route spirituelle. Philippe, celle de l'annonce de la bonne nouvelle, l'Éthiopien dans un chemin de découverte et d'engagement. Leurs chemins se sont croisés à ce moment comme une rencontre orchestrée par le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est à l'action de façon explicite quand ils se croisent, quand ils se séparent, qui est aussi à l'action de façon implicite, plus discrète. Il était certainement avec Philippe en train de lui montrer quoi dire pour expliquer le texte biblique. Il était certainement avec l'Égyptien pour toucher son cœur quand il comprend les vérités célestes. Le Saint-Esprit à l'action pour construire l'Église. Que tirer de ce texte pour nous? C'est un récit, il est beau, il est imagé. Un récit qui fait du bien, je trouve, à lire. Mais qu'en tirer pour nous? Qu'est-ce que ça change pour moi? Il faut faire attention parce que les récits comme ça ne sont pas des textes normatifs. Pas essayer d'en tirer des leçons absolues, ça nous raconte des histoires, mais pourtant ça nous apprend des choses qui nous sont utiles, je le crois. La première, c'est que le Saint-Esprit prend en main la construction de l'Église. On le voit dans le texte, c'est lui qui construit l'Église. On le voit avant, on le voit après, et je trouve que c'est un sujet d'émerveillement que de voir que l'Église, elle n'est pas bâtie par des hommes. Elle n'est pas bâtie sur des techniques de conviction, sur des stratégies de développement ou d'évangélisation. Elle est bâtie sur l'action du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui l'a fait vivre à travers les siècles et qui l'a fait vivre parfois malgré les hommes qui l'abîment. Ce ne sont pas des hommes, mais le Saint-Esprit qui touche les cœurs de ceux qu'il a choisis et qui les ajoute à l'Église. Et pour le faire, il utilise ceux qui se mettent à sa disposition, qui se laissent utiliser par lui. Et c'est peut-être la deuxième chose que j'aimerais regarder, c'est ce double exemple de deux personnes qui se laissent mettre en mouvement par le Saint-Esprit. Déjà, il y a Philippe qui partage la bonne nouvelle. Et je pense que c'est remarquable de voir que ce n'est pas réservé aux apôtres, à ceux qui enseignent, à ceux qui ont été avec Jésus. Philippe, il a écouté l'enseignement des apôtres et il a des choses qu'il sait et ce qu'il sait, il le partage avec ceux qui en ont besoin. Je le vois attentif à ce qu'il peut voir, à ce qu'il entend. Il est curieux d'écouter ce que lit cet homme qui passe. Et il partage ce qu'il sait. Ce n'est pas une vérité cachée que de savoir que le serviteur souffrant, c'est Jésus. Et en fréquentant l'assemblée de Jérusalem, il l'a appris bien vite et il l'a retenu. Surtout, il ose interpeller celui qui passe. Comprends-tu ce que tu lis? C'est peut-être le plus déterminant. Faire ce pas et poser la question. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu vis? Comprends-tu ce monde, d'où il vient, d'où il va, où il va? Le comprends-tu? Il est disponible pour Dieu, attentif à ce qui se passe. Il ose poser la question et partage ce qu'il sait. Et à côté de lui, il y a cet homme, fonctionnaire éthiopien, qui est en recherche et qui persévère dans sa recherche. Il continue à lire ces textes qu'il ne comprend pas toujours. Il est intéressé. Il veut comprendre. Il chemine avec Dieu jusqu'au jour où, enfin, Dieu met quelqu'un sur sa route. Alors, il l'invite près de lui, lui pose ses questions, fait le point sur là où il en est. Et lui aussi ose poser sa question, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? C'est une question intéressante. Parce que tous, à un moment dans notre vie, on se rend compte qu'on s'est approché de Dieu, qu'on a cheminé, parfois courtement, parfois depuis des années. Ça vaut le coup de poser la question au point où j'en suis. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je m'engage pour Dieu de façon visible par le baptême? Qu'est-ce qui empêche que je me positionne pour Jésus? Je crois que lui aussi est disponible au Saint-Esprit, à ce qu'il lui dit et qu'il réagit à son action. Et peut-être au moment de terminer, j'aimerais vous laisser avec ce sujet de réflexion. Êtes-vous ouvert à l'Esprit? Êtes-vous disponible pour son action de construction de l'Église? Est-ce qu'il suscite en vous la curiosité? Continuez votre exploration. Posez vos questions. Gardez-les. Ne les lâchez pas. Et si vous voulez en savoir plus, vous êtes dans un bon endroit pour cela. Est-ce que vous marchez avec Christ? Si c'est votre cas, comme Philippe, saisissez les occasions. Osez dire quand vous avez la réponse, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu vis, ce qui se passe? Soyez disponible pour l'action de l'Esprit-Saint, pour partager ce que vous savez. Je termine avec cette vision de l'Éthiopien qui repart tout joyeux. Oui, il y a de la joie à rencontrer Jésus, de la joie à travailler avec Jésus, de collaborer avec l'Esprit-Saint à la construction de l'Église. Je vous invite à la prière.